sur Internet, à la radio, sur votre téléphone et en DAB+, il est 15h sur Radio Aviva. Radio Aviva, le Flash Info.
Bonjour à tous. Une trentaine de personnalités politiques réunies à Matignon, de gauche comme de droite, mais sans le Rassemblement National ni la France Insoumise. Table ronde organisée par le Premier ministre François Bayrou, toujours à la recherche de son gouvernement et d'une majorité stable. Le PS a d'ores et déjà indiqué qu'il ne ferait pas partie de la nouvelle équipe. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, également conviée, dit être en quête d'un dialogue constructif avec François Bayrou afin d'apporter de la stabilité au pays. Le verdict de la Cour criminelle du Vaucluse après le procès des viols de Mazan. Des peines de 3 à 20 ans de prison ont été prononcées. 20 ans contre Dominique Pellicot, reconnu coupable de viols aggravés. Après avoir livré sexuellement son épouse Gisèle à des dizaines d'inconnus recrutés sur Internet, les enfants de la famille se disent déçus des peines qu'ils jugent basses. Des militantes féministes se sont aussi massées devant le palais de justice d'Avignon pour exprimer leur colère. Certains accusés dormiront en détention dès ce soir. D'autres ont écopé d'un mandat de dépôt différé pour des raisons de santé. Le jugement du tribunal correctionnel de Paris après le procès Paul Pogba. Mathias, le frère du champion du monde 2018, écope de 3 ans de prison, dont 2 avec sursis. Les autres accusés ont, eux, été condamnés à des peines de 3 à 8 ans de prison. Ils étaient jugés pour avoir séquestré Paul Pogba et tenté de lui soutirer 13 millions d'euros. 5 jours après le passage du cyclone Chido qui a ravagé Mayotte, Emmanuel Macron est sur place. Il a notamment visité le centre hospitalier de Mamoudzou. Le chef de l'État annonce que l'hôpital de campagne sera installé dès demain. Il abritera 100 de lits médicalisés. Un fonds d'indemnisation pour les non-assurés va également être mis en place. Et puis le succès des Jeux Olympiques de Paris à la télévision. Selon les derniers chiffres de l'Arcom, les Jeux ont été suivis par plus de 70% des Français, presque 60% pour les Jeux Paralympiques. Plus de 24 millions de téléspectateurs ont suivi la cérémonie d'ouverture. C'est un record historique, toute chaîne et tout programme confondu. Excellent après-midi.
La météo dans l'Hérault.
Bonjour à toutes et à tous. Cet après-midi, on relève des températures comprises entre 11 et 12 degrés sous un ciel assez nuageux dans tout le département. Demain, vendredi, les nuages laissent place au soleil. On attend 2 degrés le matin à Saint-Pons-de-Thomières pour les minimales. Pour les températures maximales, il fera jusqu'à 11 degrés l'après-midi à Béziers. Passez un très bel après-midi sur Radio Aviva.
Radio Aviva, le mag de la rédac. Une émission proposée par la rédaction de Radio Aviva.
Bonjour et bienvenue sur Radio Aviva. Nous vous proposons dans cette émission l'interview de Lionel Torres, directeur de l'école Polytech de l'Université de Montpellier, où il nous présente la nouvelle équipe de direction, les futurs projets de l'école, les formations qui se transforment, les défis de la transition écologique et les enjeux du numérique. Il annonce également le lancement d'un nouveau cursus d'ingénieur Polytech sur Béziers.
Lionel Torres, bonjour.
Bonjour, Liane.
Vous êtes le directeur de l'école Polytech de l'Université de Montpellier où nous nous trouvons en ce moment. Nous avons assisté à une conférence de Michel Robert qui concerne une chaire responsabilité éthique et impact des technologies numériques. Mais laissons ce thème de côté pour l'instant et revenons sur votre nomination pour un autre mandat, un deuxième mandat. Je dis deuxième, mais c'est peut-être le troisième. Non, deuxième.
Non, c'est le deuxième.
Deuxième.
C'est le deuxième.
Deuxième.
C'est le deuxième.
Pour un deuxième mandat en tant que directeur de Polytech. Et c'est que c'était pas simplement une nomination simple, c'est que vous êtes allé à Paris et que vous avez été nommé par un ministre.
Oui, alors c'est un processus un petit peu particulier pour les écoles d'ingénieurs, puisque il y a bien entendu un vote du conseil d'école qui est un vote consultatif, et que ce vote remonte après au ministère et au ministre qui nomme les directeurs des écoles d'ingénieurs. Donc c'est une grande fierté pour moi d'être renommé. Donc pour 5 ans, avec une nouvelle équipe également, et puis bien entendu des projets qui se profilent, et toujours avec une dynamique extrêmement agréable au sein de l'école.
Parce qu'on a pu voir que vous êtes accompagné maintenant par une nouvelle direction.
Oui, alors une nouvelle direction, donc une nouvelle directrice des études, donc qui est Caroline Vigreux, qui remplace Catherine Faure. Catherine, que je remercie, ça faisait 10 ans qu'elle était la directrice des études. Un nouveau directeur, alors pas tout à fait, puisqu'il était directeur des partenariats, Stéphane Brosillon, qui passe directeur adjoint. Bien entendu, la directrice administrative, Céline Berger. Un nouveau directeur des partenariats, qui est Aman Mehdi, un collègue, donc professeur en chimie. Une nouveauté aussi, puisqu'on a décidé d'avoir un directeur délégué à la transition, donc transition écologique, qui est Jean-Louis Bantini. Puis il ne faut pas oublier le côté international, puisqu'Éric Englaré, qui était sur ce mandat-là, continue la nouvelle équipe de direction. Voilà, donc une belle équipe donc qui est en train de se mettre en place et qui va porter, je pense, pas mal de projets, avec un projet qui va être important pour l'école, puisqu'on va être audité par la conférence des titres d'ingénieurs, donc en 2025, où on va...
Sur le thème de l'eau.
Alors, c'est pas que sur le thème de l'eau, c'est tous les diplômes de l'école qui vont être audités, et donc pour l'accréditation, quand tout se passe bien, chaque 5 ans. Donc voilà, donc c'est quand même un travail qui nous attend, mais qui aussi va nous permettre... On est vraiment dans un processus d'amélioration continue. Et ce type d'audit est vraiment important pour l'école parce que ça nous permet d'avoir un référentiel, puis de s'améliorer, d'avoir potentiellement des recommandations et de poursuivre nos projets.
Alors vous parlez de nouveautés, Lionel Torres, mais il y a quand même quelque chose qui est récurrent, c'est la politique de l'école Polytech.
La politique de l'école, moi j'ai beaucoup misé sur le premier mandat à développer d'abord des nouvelles formations, puisqu'on a mis en place ce qu'on appelle des mastereux de la conférence des grandes écoles. On a finalisé une accréditation autour d'une filière par apprentissage dans le domaine de l'informatique, ce qu'on appelle les DevOps, c'est ceux qui vont effectivement, justement, qui était un lien avec l'inauguration de la chaire de tout à l'heure, un lien avec le numérique. Et puis là, on a un projet pour septembre 2026 d'ouvrir sur le territoire de Béziers une nouvelle filière d'ingénieurs. Et donc sur lequel ça va faire l'objet d'une accréditation, donc en 2025, donc par la CTI. On a eu l'occasion, donc il y a une semaine, d'inaugurer le lancement de ce projet avec donc Monsieur le Préfet, Madame la Rectrice, avec le président de l'université.
On parlait de Béziers là.
De Béziers, de Béziers. Et donc on continue et de cette assise territoriale, puisqu'aujourd'hui l'école est implantée sur le site de Montpellier, mais aussi avec une centaine d'étudiants sur le site de Nîmes. Et on espère qu'à partir de septembre 2026, en partenariat avec l'IUT de Béziers et puis le lycée Jean Moulin, d'avoir une filière d'ingénieurs donc un petit peu spécifique à l'écosystème du territoire de Béziers, et notamment autour de tout ce qui est système de production avec les enjeux de transition écologique et qui sont associés.
Donc une formation de proximité pour un territoire qui est en pleine évolution.
Un territoire qui est impressionnant en termes de dynamique. Alors il y a effectivement Genvia et le projet Genvia autour de l'hydrogène qui s'est installé sur Béziers, qui a amené une dynamique, je trouve, autour des acteurs économiques extrêmement intéressante, avec aujourd'hui un développement de ce territoire qui est remarquable. Et donc, ça nous a fait réfléchir, bien entendu, à travailler aussi sur les aspects de compétences, de métiers. Et on travaille aussi avec un consortium, en fait, qui est reconnu par l'État et la région, qui s'appelle Eden, autour de tout ce qui est les énergies renouvelables. Et donc, on a trouvé vraiment pertinent, et ça fait maintenant 3 ans, quand même, qu'on travaille sur ce projet, d'aller sur le territoire de Béziers et d'asseoir, en fait, l'école Polytech sur son territoire dans sa globalité.
C'est ce qu'on appelle l'industrie verte.
C'est exactement ça, c'est l'industrie verte. Aujourd'hui, ce projet d'école de filière d'ingénieurs sur Béziers s'accompagne aussi d'une demande auprès donc de l'État, notamment dans le cadre de ce qu'on appelle les appels à projets, appels à manifestation d'intérêt, compétences et métiers d'avenir, les AMI, CMA. Et donc on va déposer en début janvier une demande de financement. Donc auprès de l'ANR et de l'État, on va voir si bien entendu ils suivent le mouvement, mais on a déjà eu un support de l'État, ça c'est extrêmement important, dans le cadre du contrat objectif moyen et pilotage performance de l'université, qui va nous permettre de pouvoir dégager des moyens pour l'ouverture de cette filière.
Alors, dans l'école Polytech de Montpellier, je sais que vous avez développé au cours de votre premier mandat l'alternance, vous l'avez amplifiée. Est-ce que c'est votre idée de faire la même chose dans cette école Polytech qui va être implantée à Béziers?
Alors c'est une volonté d'être au plus près des entreprises. Donc on a 4 filières en apprentissage, ça représente aujourd'hui 200 apprentis.
Il faut les trouver, les entreprises.
Tout à fait, donc 200 apprentis. Alors On a bien entendu des partenariats avec un certain nombre d'entreprises qui sont présentes sur le territoire, mais il faut savoir aussi que nos apprentis sont dans des régions voisines, que ce soit effectivement PACA, que ce soit en Rhône-Alpes. Et en fait, nos partenaires aujourd'hui et nos entreprises, si majoritairement elles sont sur le territoire, elles sont aussi au national. Et la volonté aujourd'hui de cette filière d'ingénieurs sur Béziers, c'est de l'ouvrir également à l'apprentissage. Et donc de telle manière à répondre au plus près des compétences et des besoins de la part des entreprises. Donc c'est un défi, hein, tu as entièrement raison Liliane, hein, trouver aujourd'hui 200 contrats d'apprentissage chaque année, c'est un véritable défi. Mais aujourd'hui, il y a la demande en termes de compétences au niveau ingénieur est relativement importante. On estime qu'il manque, c'est toujours pareil, les chiffres, il faut faire un petit peu attention, mais... Nombre d'enquêtes nous indiquent qu'il manque à peu près 10 000 ingénieurs en France. Et donc aujourd'hui, lancer cette nouvelle filière d'ingénieurs, c'est aussi une contribution de l'école par rapport à cette demande de l'industrie, de l'économie, mais également avec ce respect essentiel autour d'une société plus durable avec ses enjeux de transition écologique.
C'était Lionel Torres, directeur de l'école Polytech de l'Université de Montpellier. Tout de suite, une courte pause musicale. Aviva!
You got to accentuate the positive feeling, minate the negative, latch on to the affirmative, don't mess with Mr. In-Between. You got to spread joy up to the maximum, bring gloom down to the minimum. Have faith or pandemonium's liable to walk upon the scene. To illustrate my last remark, Jonah and the whale, Noah and the ark, what did they do just when everything looked so dark? Man, they said we better accentuate the positive feeling, minate the negative, latch on to the affirmative, don't mess with Mr. In-Between. No, don't mess with Mr. In-Between. To illustrate my last remark, Jonah and the whale, Noah and the ark, what did they do just when everything looked so dark? Man, they said we better accentuate the positive feeling, minate the negative, latch on to the affirmative, don't mess with Mr. In-Between. No, don't mess with Mr. In-Between.
Nice hat. Même en dehors des étudiants qui ont fait leur parcours en alternance, même les autres bénéficient d'une insertion professionnelle vraiment de qualité.
Aujourd'hui, en termes d'insertion professionnelle, les chiffres de la dernière promotion sont remarquables. On est à plus de 90% d'insertion professionnelle. Les 10% qui restent, c'est parce qu'ils souhaitent continuer des études, soit des thèses, soit éventuellement avoir une spécialité supplémentaire. On n'a pas de problème d'insertion professionnelle aujourd'hui. On espère que ça va quand même durer parce que c'est vrai qu'on peut se poser des questions aujourd'hui par rapport à la situation géopolitique au niveau national. Mais le retour que l'on a de la part de des entreprises aujourd'hui, c'est ce besoin constant d'ingénieurs pour pouvoir réindustrialiser la France, pour pouvoir produire peut-être aussi d'une manière différente. Et aujourd'hui, les entreprises se transforment aussi. Elles se transforment beaucoup sur ces aspects d'impact environnementaux. Et il faut qu'on y soit, il faut qu'on les accompagne. Et donc, nous, c'est plutôt une fierté d'être à leur côté pour pouvoir travailler sur ces sujets.
Je crois que même vos formations s'adaptent et se transforment aussi pour aller de pair avec cette transformation des entreprises.
Alors, on a fait un gros travail au niveau de l'école. Hein. Donc, aujourd'hui, c'est 10 filières. Ces 10 filières aujourd'hui ont un socle de base commun sur les aspects de transition écologique et sociétale qui va de la première année jusqu'à la dernière année. Là-dessus, ça représente un module d'enseignement de plus d'une centaine d'heures. Et ça, c'est juste, entre guillemets, la base, puisqu'après, dans chacune des filières, il y a des compléments qui sont apportés par métier. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, ces enjeux-là, ils sont au cœur même des formations. Et d'ailleurs, j'ai petite fierté, dans le sens que le dernier classement donc du journal Les Échos sur classant les écoles d'ingénieurs en transition écologique nous a classés dans les 20 meilleures
écoles. Lionel, c'est souvent le cas.
Oui, mais c'est toujours une fierté, les classements. Alors après, il faut toujours faire attention à ces classements. Hein. Il faut effectivement les nuancer. Mais ça montre quand même la dynamique qu'il y a dans l'école.
Dites-moi juste un renseignement pour nos auditeurs. Quand on sort de son bac, qu'on va sur Parcoursup, qu'on a la chance d'intégrer l'école Polytech, ça dure combien d'années pour devenir ingénieur?
Alors, après le bac, donc nous, on a un cycle préparatoire. Ce cycle préparatoire, il est de 2 ans. Et puis, un cycle d'ingénieur, c'est 3 ans. Donc, à partir du bac, voilà, c'est 5 ans pour devenir ingénieur. Et ce qui permet quand même d'ouvrir pas mal de portes avec ce type de diplôme-là. Et puis, on le voit, il y a des choses extrêmement intéressantes aussi qui se produisent avec nos diplômés. Aujourd'hui, et on le dit souvent, hein, nos jeunes sont aussi en quête de sens. Par rapport, bien entendu, à l'emploi, par rapport à leur mission. Et on se rend compte qu'il y a une aspiration de plus en plus forte de la part des jeunes pour avoir ce qu'on appelle un métier à un impact. Donc, s'assurer qu'ils jouent un rôle dans la société. Et ça, c'est plutôt une fierté, c'est-à-dire qu'ils prennent part, entre guillemets, dans leurs décisions pour essayer de changer la société à leur niveau. Et je crois que si on arrive à les former de cette manière-là, on en fera, je pense, des citoyens heureux.
Quand on lit vos actualités, il y a quand même beaucoup d'actualités qui permettent à tous ces jeunes de se retrouver, de faire des choses ensemble, de vivre ensemble des expériences. On ne vient pas que pour apprendre ou pour faire cours. Il y a toute cette qualité de vie étudiante à côté.
La vie étudiante, elle est essentielle. On a un bureau des élèves qui est extrêmement dynamique. Alors, avec un certain nombre d'actions chaque année qui sont remarquables. Qui joue d'ailleurs la solidarité, l'inclusion. On parle souvent des bureaux des élèves sur les événements festifs, hein, c'est bien connu, mais il n'y a pas que ça. Et on se rend compte qu'au sein d'une école, en fait, toute la vie étudiante, aujourd'hui, elle se construit aussi sur la volonté de la part des étudiants à participer à un effort collectif. Et ça, c'est remarquable. Voilà, c'est remarquable. Et pour nous, enseignants, ben, c'est quelque chose que l'on apprécie énormément. Ça donne une valeur aussi à nos missions.
Écoutez, juste un mot pour clôturer donc cet entretien. On a commencé donc notre interview par cette fameuse chaire à laquelle nous venons d'assister. Vous pourriez nous en dire quelques mots sans trop déflorer le sujet puisque nous allons faire à Radio Aviva une émission sur ce thème-là.
Alors, c'est un choix qui s'est porté. Donc, l'année dernière, on a travaillé sur cette notion de chaire, de pouvoir travailler d'une manière collaborative avec des entreprises en faisant un focus particulier sur un sujet. Donc, quand on parle de transition écologique, il y a un sujet qui nous a quand même pas mal interrogé, qui est autour du numérique. Et on l'a cité en inauguration de la chaire. Aujourd'hui, le numérique, c'est 4 à 5% de l'impact gaz à effet de serre quand même. Relativement important. On parle de 10% dans les 5 prochaines années. Donc, on est sur des valeurs, entre guillemets, d'impact qui sont quand même relativement conséquents.
Il y a vraiment un problème de responsabilité.
Il y a un problème, je pense, de responsabilité. Il y a peut-être un problème aussi d'éducation vis-à-vis du numérique. Et on a souhaité mettre vraiment le focus et l'accent, en fait, sur ce sujet-là. Et on a fait une très, très belle rencontre. Alors, c'est pas tout à fait nouvelle parce que le groupe ISIA, on se connaît depuis très longtemps, a vraiment dans l'ADN de travailler avec ses clients, avec ses partenaires, sur cet aspect autour du numérique responsable.
On a pu voir qu'il y avait des valeurs d'engagement qui vous étaient communes.
On est sur des missions et des valeurs qui sont très communes. Et donc, ça a été pour nous une très très belle rencontre de se dire, mais on va faire quelque chose ensemble. Voilà, on va faire quelque chose ensemble et on va essayer de travailler pour les étudiants, avec les étudiants, mais pas uniquement, hein, puisqu'il y a aussi toute la partie innovation, il y a la partie territoire, bien entendu, pour partager donc ces valeurs autour du numérique. Et puis c'est un sujet complexe, hein, tu l'as vu, Liliane, hein, c'est pas si simple que ça. Et je pense qu'il y a besoin d'une véritable réflexion aujourd'hui sur l'aspect numérique et on souhaite y contribuer.
Allez, on va avoir beaucoup de plaisir à vous accueillir à Radio Aviva pour parler de tout ceci. Merci encore Lionel Torres.
Ben merci Liliane et puis à très bientôt et au plaisir d'être à l'antenne de Radio Aviva.
Merci, au revoir.
Aviva. C'était le Mac de la Rédac sur Aviva. Retrouvez cette émission en podcast sur radio-aviva.com. Radio Aviva à Montpellier, Vendargues et Cournon-Terral, 88 FM en DAB+ et partout dans le monde, radio-aviva.com.
Je ne m'y attendais pas au grand départ. Fermez la porte sans revenir. Je sais, vous ne comprenez pas ma vie, mes choix, l'envie de toucher à l'avenir. Non, je ne vous oublie pas, je ne dirai pas. Mais quand j'y pense, danse ma poitrine. Alors pardonnez-moi pour tous ces soirs où j'ai prié qu'on me laisse tranquille. C'est la même photo que je regarde quand mon ciel est pas beau. Chez moi ça me manque, c'est pas nouveau. Je sais qu'on se reverra bientôt. Même à des kilomètres, quand le temps tout s'arrête, je pense à vous encore. Ça souffle dans ma tête, souvenir en tempête, et je pense à vous plus fort. Malgré les kilomètres et Paris qui fait la fête, moi je pense à vous encore. Ça tourne dans ma tête. La vie dont j'avais envie, mais ne vous méprenez pas. Mes rêves ont raison de moi. Mon cœur lui voudrait quitter la ville. Je vous mens pas, cette fois c'est la dernière fois que je me lance non plus dans le vide. Si vous saviez comme j'y crois, malgré les peines, il faut pas à ce rêve immense qui m'anime. C'est la même photo que je regarde quand mon ciel est pas beau. Chez moi ça me manque, c'est pas nouveau. Je sais qu'on se reverra bientôt. Même à des kilomètres, quand le temps tout s'arrête, je pense à vous encore. Ça souffle dans ma tête, souvenir en tempête, et je pense à vous plus fort. Malgré les kilomètres et Paris qui fait la fête, moi je pense à vous encore. Ça tourne dans ma tête.
Fidèle chaque jour pour la musique, l'info, la proximité. Tout cela n'est pas prêt de changer. En revanche, ce qui change, c'est la technologie pour nous écouter. Désormais, nous vous retrouvons aussi en DAB+. Le DAB+, c'est la radio qui fait sa révolution numérique avec une qualité optimale et des services nouveaux. Passez au DAB+ et appréciez les avantages de la radio numérique gratuite car sans abonnement. Alors n'attendez plus, un poste DAB+, en voilà une belle idée de cadeau. J'aime ma radio en FM. Je vais adorer l'écouter en DAB+.
Aviva. Radio Aviva, le Mac de la Rédac. Une émission proposée par la rédaction de Radio Aviva.
Le jeudi 25 juillet, lors de la signature de la déclaration de Montpellier, dans le cadre du sommet des jeunes pour la paix et un avenir durable, Radio Aviva était présente pour interroger Andris Bass et Claire Hart.
Bonjour et merci de nous accorder votre temps. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il est important pour vous d'être ici ?
C'était très important parce qu'il y a quelques années, j'ai visité Montpellier et j'ai vu à quel point les gens étaient amicaux et voulaient faire entendre leur voix. Alors quand on a commencé à parler de la façon de mettre ça en place, j'ai eu une idée que j'ai portée au maire et à Madame Claire Hart, les élus de Montpellier Métropole. Je leur ai donné le synopsis de ce qu'on voulait faire et les raisons pour lesquelles on voulait le faire. Et on s'est dit que c'était le meilleur endroit pour le faire puisque c'est l'une des villes les plus jeunes de France. Quand on cherche la diversité, c'est là qu'est la diversité. Et j'ai trouvé que Montpellier était comme un petit New York avec moins de place.
When you're talking about diversity, this is where diversity is. And I saw Montpellier is like a small New York with less space.
Vous pouvez expliquer ce qu'il y a dans la déclaration signée aujourd'hui?
In 2015,
En 2015, des résolutions avaient été adoptées par le Conseil de sécurité, mais il y a eu beaucoup de problèmes dans le monde et des modifications devaient être apportées. Légalement, on ne peut pas les changer, mais les Nations Unies sont toujours ouvertes aux suggestions. La jeunesse a donné son opinion et nous, on a transmis leurs idées. C'était donc un langage différent, mais les mêmes idées portées. Comment la jeunesse pouvait faire partie du Conseil de sécurité comme observateur? Comment la jeunesse pouvait avoir une voix dans la prise de décision? On voulait que l'ONU prenne tout ça en considération.
Same thing happened to another country, and they want the United Nations to take that in consideration.
Do you think the United Nations?
Est-ce que vous pensez que l'ONU écoutera les jeunes?
Young people.
Ah oui, c'est sûr, puisque les Nations Unies travaillent dans de nombreux programmes en lien avec la jeunesse. Et même s'il y a eu quelques allers-retours sur les décisions les dernières années à cause du Covid, par exemple, il faut prendre ces voix en considération.
Donc vous pensez qu'il y a de l'espoir grâce à la déclaration d'aujourd'hui?
Oui, il y a toujours de l'espoir à l'ONU. Parfois, des gens ont un a priori. Ils pensent que les Nations Unies n'écoutent pas parce que les élus de gouvernement prennent parfois des décisions seuls. Mais là, ils ont un conseil des jeunes où ils peuvent donner leur opinion. Donc, bien sûr que l'ONU écoutera.
Pouvez-vous vous présenter et nous dire ce que vous faites exactement?
Mon nom, c'est Andries Bass. Je suis la fondatrice et directrice exécutive de l'Institut des politiques publiques et recherches diplomatiques. On est basé à New York, à quelques minutes des quartiers généraux des locaux des Nations Unies. C'est une organisation à but non lucratif où on rassemble les jeunes afin qu'ils puissent faire entendre leur voix.
Thank you so much for your response.
Oh, thank you.
Bonjour, merci de m'accorder un petit peu de temps. Est-ce que vous pouvez m'expliquer l'importance de la présence de tel événement aujourd'hui ici?
Bien sûr, merci d'être là déjà. Alors là, vous êtes en plein milieu d'un événement majeur et assez historique pour la ville de Montpellier, puisqu'on n'a jamais accueilli de cette manière-là les Nations Unies chez nous. Donc c'est un événement qui a lieu sous l'égide des Nations Unies. C'est un sommet de la jeunesse pour la paix et pour le développement durable. Donc on est là regroupés ensemble pour travailler sur une déclaration commune afin d'apporter cela auprès des Nations Unies, donc des États membres des Nations Unies, pour le sommet de du futur.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
L'avenir qui aura lieu donc au mois de septembre. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé des discussions, des débats, des échanges en trois langues, en anglais, français et en espagnol. Nous avons pu mettre ensemble des personnes qui ne se connaissaient pas, des quatre coins du monde. On avait 50 et quelques pays représentés ici aujourd'hui. On s'est mis d'accord sur de quoi on a besoin, de quoi la jeunesse a besoin aujourd'hui afin de devenir les leaders de demain et comment on peut apporter une pierre à l'édifice sur la question de la paix dans le monde et du développement durable, bien évidemment.
Alors, qu'est-ce qui en est sorti?
Il en est sorti que nous devons travailler aussi sur les personnes déplacées, donc sur les réfugiés. Nous devons travailler aussi sur la période après-guerre pour que la jeunesse puisse reprendre le flambeau après des conflits dans le monde. Sur aussi les réfugiés climatiques et aussi également, et ça c'est très important pour nous, sur l'implication de la jeunesse dans la gouvernance des villes et des États aussi. Et pourquoi pas des Nations Unies.
Voilà. Alors pour vous, cette jeunesse n'est pas assez impliquée. Pour vous, ça manque encore de présence.
Ça manque pour moi, mais ça manque surtout pour les jeunes, on va dire. Donc les jeunes demandent leur place autour de la table pour pouvoir participer au débat. C'est une jeunesse dynamique, une jeunesse qui a envie d'avoir une prise de parole, hein, d'être entendue. Donc on est là-dessus et la jeunesse le demande, l'exige et on va amener ça aux Nations Unies. Et c'est la déclaration de Montpellier.
Et alors cette signature qui est imminente là, qu'est-ce qu'elle veut dire pour Montpellier et pour les Nations Unies?
La déclaration pour Montpellier nous amène aux Nations Unies. Donc Montpellier sera toujours la déclaration de Montpellier. Et pour Montpellier, ça nous renforce dans notre approche. Une ville à hauteur d'enfants. Nous avons des conseils des jeunes et des conseils des enfants, hein, conseils municipaux. Donc, on est sur le bon chemin à Montpellier à ce niveau-là. Et on a bien vu en échangeant avec les autres qui sont très inspirés par ce qu'on a déjà fait. Donc, on est très fiers, je dirais, de tout ça. Et on va continuer en avant.
Justement, on va continuer. Qu'est-ce qu'il reste à faire?
Alors, il reste à mettre en place tout cela, à travailler avec les pays ailleurs qui sont plus en difficulté que nous. Hein. On a eu des Arméniens, on a des Ukrainiens, on a des personnes du Proche-Orient qui sont là, qui vivent la guerre tous les jours. Nous, c'est pas notre cas, c'est notre chance. Donc, on se doit, Montpellier se doit, de continuer à être cette ville inspirante et de travailler main dans la main avec d'autres villes en coopération rapprochée afin d'apporter notre voix, on va dire, dans le monde et sur le plan global.
Merci beaucoup, Clara, pour
merci. Merci beaucoup. Bonne journée à tous.
Merci.
Nous nous retrouverons après une courte pause musicale pour votre émission au sujet de la signature de la déclaration de Montpellier dans le cadre du sommet des jeunes pour la paix et un avenir durable qui a lieu le 25 juillet. Dans notre émission au sujet de la signature de la déclaration de Montpellier dans le cadre du sommet des jeunes pour la paix et un avenir durable qui est lu le 25 juillet. Cette signature a été réalisée en présence de Gohar Galustian que l'on écoute au micro de Yohann Lopez.
Alors donc je suis en compagnie de Gohar Galustian, donc qui est la jeune ambassadrice de la diaspora arménienne. Bonjour Gohar.
Bonjour.
Alors aujourd'hui nous sommes ici pour le sommet des jeunes pour la paix à Montpellier. Est-ce que vous pouvez expliquer pour vous quelle est l'importance en fait de la présence d'un tel événement aujourd'hui ici?
Il est très symbolique que Montpellier accueille ce sommet qui a réuni un grand nombre de jeunes gens venus de différents continents, de différents pays pour discuter de la paix et de la façon dont les jeunes peuvent jouer un rôle dans la construction d'une paix durable sur tous les continents dans le monde. Et c'était une plateforme incroyable et un lieu de rencontre avec des personnes complètement différentes et merveilleuses.
Alors justement, en parlant de rencontres, est-ce que ça vous a permis en fait de vous mettre en contact, en relation avec du coup une plus grande diversité? Comment ça s'est passé?
C'était une opportunité de voir plusieurs personnes intéressées par les mêmes sujets, engagées sur les mêmes thématiques, réunies au même endroit pendant 4 jours. Et c'était une chance inestimable. Et effectivement, nous avons noué des liens. Et je crois que notre travail sera continu. Et nous allons le sommet ne sera pas la dernière étape, mais c'est seulement la première, le premier pas.
Et alors, pour se pencher un petit peu plus précisément sur la diaspora arménienne, qu'en est-il?
La diaspora arménienne est présente à Montpellier depuis plusieurs siècles, mais l'association existe depuis 40 ans. Et j'ai eu l'opportunité d'expliquer plus spécifiquement la situation géopolitique en Arménie et des Arméniens d'Artsakh suite à la guerre que les Arméniens d'Artsakh ont eue contre l'attaque de l'Azerbaïdjan, plutôt de son voisin azerbaïdjanais, contre le territoire de l'Artsakh, et du nettoyage ethnique vécu par ces populations qui a contraint 120 000 personnes quitter les terres sur lesquelles ils ont vécu depuis des millénaires, en laissant derrière eux toute une vie et l'existence. Et aujourd'hui, les Arméniens sont face à une question existentielle, parce que l'Azerbaïdjan, maintenant, a des prétentions sur les territoires souverains de la République d'Arménie.
Alors, votre discours, donc c'est ce que vous avez dit pour ce sommet-là. Est-ce que votre discours était similaire, entre guillemets, à ceux des autres? Est-ce que c'est ce genre de discours qu'on pouvait entendre à chaque fois?
Il était assez frappant de voir que nous avions des problématiques assez similaires, peut-être à des échelles différentes, dans différentes parties du monde. Et finalement, l'objectif est le même, c'est de créer un environnement suffisamment sain, sécuritaire et une paix véritablement durable pour laisser les populations pouvoir vivre sereinement et s'épanouir dans tous les aspects.
Alors là, nous approchons de 13 heures, il va y avoir la signature d'un traité, c'est ça?
Effectivement, nous avons les différents groupes ont travaillé selon la langue qui a été choisie, donc l'espagnol, le français et l'anglais, pour rédiger une charte sur justement le rôle et la prise en compte des jeunes, l'inclusion des jeunes, et pas seulement dans les instances internationales, dans la construction de la paix durable.
Alors justement, vous, dans votre situation, c'est important pour vous une signature d'un tel traité?
Pour moi, ça me semble tout à fait intéressant et bienvenu, puisque nous ne sommes pas arrêtés à des discours qui peuvent sembler éloignés et assez généraux. Nous avons pu travailler dans le cadre des ateliers, nous avons pu tisser des liens encore plus importants et plus poussés et réfléchir ensemble finalement sur ce rôle que les jeunes peuvent ou doivent jouer dans la construction de la paix.
Merci beaucoup pour vos réponses.
Merci beaucoup.
Votre émission est à présent terminée. Elle est disponible en podcast sur notre site internet www.radio-aviva.com. À bientôt sur Radio Aviva. Aviva.
C'était le Mac de la rédac sur Aviva. Retrouvez cette émission en podcast sur radio-aviva.com. Right.
coming up with love, but it's so slashed and torn.
La journée, de 6h à 20h, Radio Aviva renforce l'info avec des flashs locaux, nationaux et internationaux, 7 jours sur 7.
C'est tellement simple. L'amour à qui l'entend, regarde autour, à qui le veut vraiment, c'est tellement rien. Tout le temps, ce sera nous.
Radio Aviva à Montpellier, Lunel et Murviel et Montpellier, 88 FM, en DAB+, et partout dans le monde, radio-aviva.com.
As I lie here, thinking of you, I realize that nothing is new.
Lying in my bed, thinking of you, I realize nothing is new. You say you love me, but want success. I say you're lying, nothing has changed. This is a sign of the times, peace of what to come.
5 years down the road.
Ça,
c'est Alpha.
On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. À la station Belière, tu t'es pas fait briller. J'étais gant de crin, je zère. Pour un peu, j'ai trempé. Histoire d'eau. La nuit, je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparer seulement, t'accaparer. D'estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus. Des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire. Presseur de loulou, dynamiteur d'aqueduc. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, et effrontément. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore. On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes,